Nous allons lire, pour introduire cette œuvre, un passage de la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3. Ce sont les versets 12 à 18 que je vous propose de lire maintenant. Pierre vient d'évoquer la dissolution du monde dans le bain de feu qu'il prévoit pour la fin. Et au verset 12, donc, de la seconde épître, chapitre 3, il dit « Vous attendez et hâtez la parousie du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés fondront. Nous attendons en effet de nouveaux cieux et une terre nouvelle, selon sa promesse, dans lesquels la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, attendant ces choses, faites diligence, faites tous vos efforts, empressez-vous pour être trouvés sans tache et sans reproche dans la paix et considérez que la longanimité du Seigneur est votre salut, selon aussi que notre bien-aimé frère Paul, selon la sagesse qui lui a été donnée, vous a écrit, comme dans toutes les épîtres où il traite, où il parle littéralement au sujet de ces choses. Dans ces épîtres, il y a certaines choses difficiles à comprendre, que des ignorants et instables tordent, comme aussi les autres écritures, pour leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, sachant à l'avance, sous-entendu ces choses, gardez-vous de peur que vous ne soyez entraînés par l'erreur des impies et que vous tombiez de votre propre stabilité. Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Voilà une traduction assez littérale de ces quelques versets. Nous pouvons maintenant prier ensemble. Est-ce que M. Henri voudrait nous conduire dans la prière? Si j'ai choisi le passage que nous venons de lire pour introduire cette séance, ce n'est pas tant parce que le mot « erreur » s'y trouve, si on choisit de traduire le mot grec « planait » comme ce matin, ici aussi par le terme « erreur », mais c'est surtout parce qu'il met en cause la question de l'interprétation. C'est le rapport entre l'inhérence et l'interprétation de la Bible qui doit plus particulièrement nous occuper maintenant. En fait, nous avons déjà touché le sujet en passant en revue les diverses sortes de phénomènes à propos desquels on peut s'interroger, erreur ou pas erreur. Nous avons vu qu'il s'agit inévitablement d'interpréter. Mais nous nous concentrons sur le rapport entre la question des erreurs, qu'on croit qu'il y en a ou qu'on affirme qu'il n'y en a pas dans l'Écriture, et celle de l'interprétation biblique. Je signale que j'ai fait donc un article précisément sur ce sujet, qui se trouve donc dans le recueil sous la direction de Paul Wells, qui vous a déjà été signalé. Donc, il s'intitule « Inhérence et herméneutique ». L'herméneutique, c'est la science de l'interprétation. Donc, sachez qu'il y a un texte plus développé, plus précis, avec des indications bibliographiques, mais qui date de quelques années, qui touche précisément au sujet de notre moment présent. De plusieurs façons, on peut reconnaître que des liens de solidarité lient le problème de l'inhérence à celui de l'interprétation. Il y a d'abord cette évidence, mais il vaut toujours mieux dire les choses qui vont de soi. Si l'on interprète fautivement, de façon déviante, sotte ou peut-être trop subtile parfois, le texte biblique, et si on lui prête un sens qui n'est pas le sien, on manque le message de Dieu, ce que Dieu a voulu nous communiquer, aussi sûrement qu'on le fait si on lui attribue l'erreur alors qu'il n'en commet pas. L'affirmation de l'inhérence ne garantit en aucune façon un plein respect de l'Écriture sainte. Pour que l'Écriture sainte, dans son contenu, soit effectivement respectée et traduite en obéissance chez les fidèles, il faut encore qu'elle soit bien comprise. Il faut que l'interprétation soit correcte. Donc il y a là un lien évident. Si quelqu'un interprète mal, il va affirmer des choses qui seront peut-être erronées, en tout cas qui ne seront pas ce que Dieu a voulu lui dire dans le passage, tout en affirmant l'inhérence. Mais il y a des relations plus subtiles et essentielles, je dirais, entre le processus de l'interprétation et la doctrine de l'inhérence. On peut plaider que le sens même que l'on donne à la proposition « l'Écriture est exempte d'erreur » ne se précise, ne montre ses contours, ne se concrétise qu'à partir du moment où on montre quelle interprétation on pratique en accompagnement. Et ce que j'ai dit ce matin, déjà, vous prépare à le sentir. Quelqu'un dit, l'Écriture est exempte d'erreur. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement? On le voit à sa manière de prendre des textes, de les écouter, de les mettre ensemble, de les interpréter. Donc, en fait, on pourrait dire que c'est l'interprétation qui pourvoit une définition opérationnelle ou opératoire de l'inhérence. Que veut-elle dire, non pas en termes formels, mais en pratique, cette inhérence? On le voit quand on interprète, selon la façon d'interpréter. Et ce que j'ai dit ce matin en était une illustration anticipée. D'autre part, on peut aussi plaider que le travail d'interprétation est préalable à la formulation de la doctrine même, dans ses éléments les plus formels, puisqu'il faut scruter l'enseignement global de l'Écriture, comme je l'ai dit, pour aboutir à l'affirmation de l'inhérence. Or, cet enseignement global de l'Écriture, on y accède par un travail d'interprétation. Je glisse ici une petite note en disant que je crois inéluctable le travail d'interprétation, même dans la lecture qui se pense la plus immédiate, la plus directe. En fait, nous interprétons toujours. Il y a des gens qui réservent le mot d'interprétation au cas où on ne comprend pas tout de suite, où c'est difficile, où il faut faire de longs circuits pour essayer de trouver le sens, qui disent qu'il n'y a interprétation que lorsqu'il y a obscurité. Je crois que c'est une restriction malheureuse, que la lucidité conduit à discerner que même quand on considère que le sens est quasiment évident, il y a eu un travail d'interprétation à toute vitesse, dont on n'a pas conscience, qui s'est opéré. De toute façon, nous transposons dans notre langage personnel ce qui est dit dans le langage du texte lorsque nous estimons le comprendre. Et ce passage du langage du texte à notre langage plus intime, c'est de l'interprétation. Nous reformulons toujours à quelques degrés ce qui est dit en le faisant nôtre dans l'acte de lecture, et c'est de l'interprétation. Et il ne faut pas donc réserver à une catégorie seulement, qu'on appellerait la catégorie des textes obscurs, le travail d'interprétation. Tous les textes ont quelques degrés d'obscurité. Il faut un acte d'intelligence pour en saisir le sens. Et donc, je prends la catégorie d'interprétation de la manière la plus large pour s'appliquer à tout ce qui est réception d'un message verbal porteur d'un sens qui m'est destiné. Ça, c'est une note que j'ai glissée simplement en marge. Donc, comprenez bien que pour moi, il y a interprétation. Pour tout chrétien, lorsqu'il ouvre sa Bible, qu'il fait son culte personnel, il interprète en lisant. C'est toujours le cas. Donc, on n'atteint pas la doctrine sans avoir interprété. Même si on s'appuie sur les passages les plus clairs, on interprète. Donc, il y a là aussi un lien entre la doctrine de l'inhérence et celle de l'interprétation. Et à cause de ce lien, disons tirant argument de ce lien, peut-être prétexte de ce lien, certains veulent aller encore plus loin et arguent que l'affirmation de l'inhérence est secondaire, qu'en réalité c'est un choix herméneutique qui détermine tout le reste. Chacun, avec ses présupposés philosophiques, façonné par la tradition qui l'a nourri, marqué par son propre tempérament aussi, fait un choix de lecture. Arrive au texte avec des critères, avec des axes, des lunettes, si vous voulez, métaphoriquement, pour lire le texte qui représente ces choix herméneutiques. Et, nous dit-on parfois, ceux qui affirment l'inhérence ne le font que parce qu'ils ont chaussé les lunettes correspondantes. Ce qui est premier, c'est le choix herméneutique, et l'inhérence n'est qu'un effet de la lecture ainsi orientée. Ce qui est sous-jacent à cette présentation, et parfois n'est pas seulement sous-jacent, mais est explicitement présenté en association, c'est qu'une autre paire de lunettes est tout à fait légitime. Que ceux qui concluent à l'inhérence ne peuvent pas dire aux autres « vous n'avez pas le droit », qu'en fait, chacun chausse la paire de lunettes qui lui convient, aborde le texte avec les présupposés herméneutiques qui lui viennent de tout cet ensemble préalable que j'ai évoqué, de telle sorte que l'inhérence n'est qu'une des façons dont le texte apparaît quand on a choisi de le lire sous un angle donné avec certains critères. Et au bout du compte, donc, il n'y a pas de privilège par rapport à la foi chrétienne qui puisse aller à cette lecture et à cet effet de lecture qu'est la conviction de l'inhérence. C'est un lien que certains essaient d'établir. Alors je commence par prendre position contre cette dernière proposition. Je pense que ce que je viens d'expliquer n'est pas juste et, sans développer énormément, parce qu'il y a toute la question des présupposés, de leur rôle, c'est une grande question philosophico-théologique qui joue aussi pour la conception qu'on se fait de l'apologétique. Bon, j'ai dit que je faisais peut-être plus de dogmatique ici, qui est impliquée. Et il y a la question du relativisme. Pour le colloque de notre faculté l'an dernier, j'ai traité quelque peu de cette question du relativisme et la chose devrait paraître dans le volume de la série qui est ici sur le bureau, mais ce n'est pas encore rédigé. C'est normalement au début de l'an 2000, sans doute fin 99, début 2000, que devrait paraître le volume. Non, il devrait quand même paraître avant. Non, il devrait paraître fin 99, parce que c'est celui de l'an dernier. Il a été retardé par le retard d'un des conférenciers. Monsieur Buchholz s'occupant de la collection qui est en pause. Oui, non, j'ai fini mon texte. Non. Alors, vous pourrez voir ça quand même, j'espère, assez prochainement, sur la question du relativisme. Mais enfin, je dis quand même un mot aujourd'hui, sauf à sombrer dans un relativisme sans rivage, un espèce de maelstrom, de tourbillon où il n'y a rien à quoi se raccrocher, et je pense à aller contre l'orientation fondamentale de la parole de Dieu, il faut affirmer que la parole de Dieu a le pouvoir de faire brèche dans tous nos conditionnements, a le pouvoir de reformer, reforger nos présupposés. Si on suggère que tout est déterminé par les présupposés que nous apportons lorsque nous venons au texte, que toute forme et toute couleur dépend des lunettes que nous chaussons, alors on n'échappe pas au relativisme. À ce moment-là, chacun sa vérité, il n'y a plus de vérité. Le mot de vérité perd toute force. Et la parole de Dieu devient ce qui a été l'horreur évoquée déjà dans des controverses très anciennes, un nez de cire, c'est-à-dire un objet entièrement plastique que nous façonnons à notre guise, selon ces présupposés que nous apportons. Si il n'y a de déterminant que ce que nous apportons, alors nous sommes perdus. Mais il n'en va pas ainsi. La parole de Dieu n'est pas liée, la parole est puissante. La parole est capable de transcender tous les conditionnements, les contextes divers. Elle a assez de consistance, elle a une structure propre qui se fait sentir et s'impose avec assez de force pour reformer nos présupposés mêmes. Alors c'est un processus, ça ne se fait pas d'un coup magiquement. Il y a un travail progressif et c'est une sorte de lutte, mais c'est comme ça que ça se passe, de telle sorte que nous ne sommes pas livrés à une priorité absolue des présupposés que nous apportons de fait. Oui ? Tout à fait, tout à fait. Alors, mais ça continue après la conversion, ça ne se fait pas d'un coup. Mais c'est exactement ça. Je pense que le terme néo-testamentaire de métanoïa correspond très bien. Vous savez qu'il est formé sur un radical qui évoque le travail de pensée. Donc c'est métanoïa, noïa de nous, l'intelligence. Dianoïa veut dire la pensée. Métanoïa, c'est la pensée que l'on a après avoir agi, où on se met à réfléchir et on change. On dit, ah ben, j'aurais dû faire autrement. C'est une affaire de pensée, de cadre mental, de repère, de courbure, de l'horizon sur lequel s'inscrivent les éléments d'information que nous recueillons et selon lesquels nous les mettons ensemble. Or, la conversion marque une rupture à cet égard de la vieille noia de l'homme irrégénéré. On passe par rupture sous l'action de la parole et de l'esprit œuvrant de façon conjointe et grâce à cette capacité de transcendance de la parole de Dieu qui n'est pas liée, on passe à une autre noia. Effectivement, donc, je crois que nous avons un changement fondamental de présupposé qui est évoqué aussi par l'apôtre par d'autres termes. Être renouvelé par être métamorphosé par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Ah, voilà, alors moi je suis moins expert en informatique que Madame Streng. Il y a des analogies sans doute qu'on peut apporter. Bon. Mon propos aujourd'hui, c'est donc de dire nos présupposés herméneutiques. Nous ne pouvons pas nous en passer, c'est vrai, nous arrivons toujours avec, moins de façon semi-consciente, des éléments, des préférences, des inclinations, ne sont pas tout déterminants. La parole de Dieu est plus puissante. Si le Saint-Esprit nous applique cette parole, elle est capable de les reformer. Ce qui veut dire que c'est la nature de cette parole qui est première, qui demeure première. Tout ne commence pas par herméneutique, dans l'ordre. C'est la parole qui agit dans notre vie, dans notre esprit, qui réforme notre intelligence, qui redresse nos présupposés herméneutiques. Et si l'inhérence est un aspect, je dirais la fine pointe de ce qu'est l'écriture, si elle signifie sa totale fiabilité, alors il faut dire qu'elle est quand même première par rapport aux choix herméneutiques. Voilà la proposition que je vous fais sous B1, ce qui veut dire, je développe en B2, dans la numérotation de mon plan, ce que cela signifie, selon l'ordre de la norme, parce que dans le vécu de l'un ou de l'autre, les choses se mélangent, on peut y avoir des retours en arrière, ce n'est pas l'aspect biographique qui nous intéresse ici, mais qui varie selon un individu, selon les individus, mais c'est l'ordre normatif. Dans l'ordre normatif, ce qui est premier, c'est la nature de la parole que nous avons à interpréter, et ce qui est second, c'est la manière de l'interpréter. C'est la nature de la parole qui va gouverner la manière de l'interpréter. Selon ce qu'elle est, il faut lui appliquer telle façon de lire. Je plaiderais que c'est une loi universelle de la communication humaine, mais qu'elle est suprêmement importante et qu'elle œuvre avec une pureté absolue dans le cas de l'écriture parce qu'elle est parole de Dieu. C'est déjà comme ça que ça fonctionne entre nous couramment, et autrement la vie ne serait pas possible si ça ne fonctionnait pas au moins en bonne part comme ça. C'est celui qui parle, qui par sa manière de parler, parce qu'il est aussi, commande la manière dont on l'écoute et on interprète. S'il blague, voilà, il commande en blaguant la façon d'interpréter ses paroles. C'est lui qui détermine le premier, c'est lui qui a choisi de blaguer ou de ne pas blaguer. Si c'est Andreas Bill qui nous parle de la physique des supraconducteurs, nous savons que sur ce point, il parle avec une autorité qui fait que nous allons le prendre très au sérieux. Il commande la manière de l'écouter, de l'interpréter. Si c'est moi qui vous dis quelque chose sur ce sujet, vous pouvez vous en balancer complètement, parce que je ne connais rien. Et donc, selon l'autorité propre, appartenant en propre à la parole qui est émise sur un sujet donné, la façon d'interpréter va varier tout à fait normalement. Mais dans le cas de la communication ordinaire, ça ne joue pas quand même à 100%, justement parce que nous sommes faillibles. Même M. Andreas Bill, c'est vrai qu'il peut y avoir quand même un soupçon, on va dire, mais d'un autre côté, est-ce que... Et cela fonctionne à 100% en toute pureté, justement, quand c'est la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous parle. Mais dans l'ordre de la norme, donc, je vous suggère que c'est les caractères de la Bible qu'il faut reconnaître comme premier et déterminant, et ensuite alors voir quelle interprétation convient. Comme je l'ai dit, dans le vécu, c'est un processus. Ça ne se fait pas d'un coup. Et ça joue dans un va-et-vient, en spirale. J'arrive à l'écriture avec mes présupposés. Même si je viens de me convertir, c'est très bancal. Ça reste très, très fru. Je commence à comprendre. Du coup, en commençant à comprendre, je vois comment il faut redresser. La parole redresse mes présupposés, les corrige au moins en partie. Donc, je peux revenir à l'écriture en la comprenant mieux. Parce que l'ensemble de mes critères herméneutiques, l'optique que j'apporte, a été déjà redressée par la parole. Je retourne à l'écriture, je la comprends donc encore mieux que la première fois. Du coup, en retour, mon optique peut être, elle aussi, corrigée à nouveau, purifiée encore, et ainsi de suite. Ça dure toute la vie. Et puis bien sûr, ce n'est pas seulement l'individu avec la Bible, mais c'est toute la communauté qui joue ensemble. Donc c'est un processus indéfini, mais de réelle progression, qu'on pourrait dire en spirale, puisque ce n'est pas du surplace, c'est dans un sens c'est circulaire, mais il y a une progression, c'est pourquoi on peut employer l'image de la spirale à ce propos. Voilà ce que je crois devoir affirmer, ça se fait toujours un peu partie des fondements dogmatiques sur le sujet que nous avons à traiter, et j'en arrive maintenant alors plus précisément à ce que la conviction de l'inhérence biblique va impliquer. La foi qui a été saisie et instruite par la parole de Dieu, cette parole de Dieu capable de faire brèche dans tous les conditionnements qui m'ont affecté, implique l'attente confiante de la manifestation de la justesse ou harmonie et sa recherche quand cette justesse ou harmonie n'est pas évidente. Alors il y a deux choses principalement dans cette proposition que je formule. La première, c'est que croire en la fiabilité de la parole de Dieu, avec donc cet enseignement sur sa vérité jusque dans le détail, des choses que les auteurs inspirés par Dieu nous affirment, implique que je vais m'attendre à l'harmonie. Je vais interpréter l'Écriture avec cette confiance qu'elle ne se trompe pas, et donc qu'elle ne me trompe pas, si je la comprends bien, avec cette confiance qu'elle ne se contredit pas, puisque l'un des traits de la notion biblique de vérité, c'est la cohérence interne, conformément d'ailleurs à la notion courante de vérité à travers les âges. Voilà la première chose que j'affirme. Cela caractérise à mon interprétation que je vais avoir cette confiance. De nouveau, je peux signaler qu'il y a analogie dans la communication humaine ordinaire, mais que le degré absolu ne se trouve que dans le rapport avec la Bible. Pascal a très très bien su, Blaise Pascal, montrer qu'avec n'importe quel grand auteur, c'est la méthode qu'il faut suivre. Essayer d'accorder les contrariétés, comme il appelle. Un auteur a un sens où il n'en a aucun. Un auteur de qualité ne se contredit pas comme ça n'importe comment. Donc si on a l'impression quand on le lit qu'il se contredit, si c'est un grand bonhomme, on essaye de voir comment ça peut se mettre ensemble et en fait être juste. C'est la règle avec n'importe quel grand auteur estimable, disons. C'est sans doute un présupposé de charité, de respect qu'on peut avoir à l'égard de toute personne qui écrit, mais c'est vrai que l'expérience montre qu'on ne peut pas avoir une confiance très très haute dans les écrits, les expressions d'absolument tous les êtres humains. Un professeur qui doit corriger des copies sait que les êtres humains sont capables de se contredire à quelques lignes d'intervalle même. Bon, mais quand c'est un grand auteur, on fait cette confiance. Mais on ne la fait quand même pas absolument. Car on sait que même Pascal, même Descartes peuvent se contredire. Cette confiance, on la fait absolument quand c'est Dieu qui parle. Voilà la première chose que la proposition C1 vous suggère. Mais j'ajoute là sa recherche quand elle n'est pas évidente, cette harmonie. Non seulement il y a cette confiance, mais il y a le problème qui surgit d'une apparence d'erreur, de contradiction ou d'erreur autre qu'une contradiction. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans cette confiance que j'ai globalement, parce que j'ai reconnu que Dieu me parle dans ce texte, Je ne vais pas céder au premier mouvement qui reviendrait à conclurativement, il y a une erreur. Malgré l'apparence, je vais chercher pour voir si il n'y a pas une autre façon de comprendre, si je ne peux pas résoudre cette apparence d'erreur de telle sorte qu'il apparaisse qu'il n'y a pas d'erreur, en fait, en réalité. Donc, confiance et recherche là où l'harmonie n'est pas évidente, ou c'est plutôt le contraire qui semble. Parce que ça arrive, ça, indubitablement. Cela arrive. Cela veut dire, deuxième point, une règle herméneutique d'harmonisation, qui vaut à un moindre degré pour tout auteur estimable, c'est ce que je viens de dire en me référant à Pascal, mais au degré suprême pour l'écriture, parole de Dieu. Règle d'harmonisation. Oui. Essayez de voir comment des passages qui semblent contraires en réalité s'accordent, c'est chercher à les harmoniser. Ça s'appelle harmonisation. Et le terme me paraît tout à fait bien choisi, adéquat. Il y a des gens qui en ont un peu peur, mais il ne semble pas que nous devions avoir peur. En pratique, que signifie croire à l'inhérence au plan de l'opération herméneutique interprétative? En pratique, ça veut dire chercher à harmoniser. Croire à l'harmonie et traduire cette conviction par des procédures de recherche, de façon d'accorder ce qui ne semble pas s'accorder d'emblée et à la surface qui saute aux yeux. Voilà ce que croire à l'inhérence va impliquer foncièrement. Et par rapport aux exemples que j'ai donnés ce matin, de ce qui est exclu par l'affirmation de l'inhérence et qui pourtant semblerait, pour le regard qui parcourt la surface du texte biblique, je reprends les choses que je disais ce matin, les exemples que je vous donnais ce matin, cela signifie qu'au lieu de dire Luc s'est trompé, il a confondu 6 après Jésus-Christ et 6 avant Jésus-Christ, on va chercher de voir si Quirinius n'a pas pu, déjà en 6 avant Jésus-Christ, faire quelque chose qui correspondait à ce recensement, ou bien si la phrase ne peut pas se traduire autrement. Voilà, c'est ça la recherche d'harmonisation. En l'occurrence, harmonisation entre des données historiques qui paraissent trop certaines pour être mises en doute, et puis le texte de Luc. C'est une procédure d'harmonisation. Pour Daniel, la procédure d'harmonisation consistera essentiellement à dire « Votre interprétation de Daniel est fausse. » C'est pas ce que Daniel a voulu dire. Vous projetez sur Daniel un schéma qui ne lui est pas fidèle. Alors après ça, ce schéma que vous avez projeté, vous dites « Il est faux historiquement. » Mais bien sûr, mais c'est pas celui de Daniel. C'est comme ça que l'harmonisation avec la réalité historique se fait, par une plus juste interprétation de Daniel. Je vous signale, je ne sais pas si vous avez vu dans un des derniers numéros de Fac Réflexion, le dernier ou l'avant-dernier, j'ai fait une recension d'un petit livre dans la collection Que sais-je, de Patrick Delaubier. Je m'en suis vraiment donné à cœur joie, sur un point très très précis. Patrick Delaubier, qui lui-même n'est pas un spécialiste, qui dépend de spécialistes, évoque Daniel 7, le passage de Daniel 7. Et comme il dépend de ses sources, critiques modernistes, il admet l'idée que Daniel parle de 2 empires successifs, Mède puis Perse, contrairement à l'histoire. Mais, en parlant de cela, il attribue à l'une des bêtes de Daniel 7 certains caractères qui correspondent à l'empire perse, je crois. Je ne me rappelle plus maintenant très précisément. Ce qu'il attribue à ce symbolisme animal de Daniel 7 correspond exactement à l'interprétation des critiques qui séparent fautivement empire grec et empire mède et empire perse. Et on voit très bien pourquoi il a attribué ces caractères. Mais ce n'est pas le texte. Si on se reporte au texte de Daniel 7, dans toutes les versions, hein, il n'y a pas de problème, dans toutes les versions, on s'aperçoit qu'il s'est trompé d'animal dans la vision. Donc c'est un symptôme éclatant de l'inadéquation de cette interprétation moderniste courante.
Qui s'est trompé d'animal?
Patrice de Laubier, mais qui lui-même dépend de ses lectures, hein, puisqu'il n'est pas un spécialiste exégète. Bien qu'il l'ait lu abondamment. Il est professeur à l'université de Genève, de Laubier. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Vous voyez, peut-être qu'un spécialiste plus averti aurait, vous voyez, réussi à masquer la faiblesse de son interprétation. Mais lui, moins spécialiste, plus naïf, il montre à quel point le schéma qui est imputé au livre de Daniel n'est pas celui du livre de Daniel, puisque dans la logique de ce schéma, il est conduit à modifier le texte, sans s'en rendre compte, à attribuer à l'une des quatre bêtes ce qui est lié d'une autre.
Vous l'avez informé de son erreur ?
Non, je ne le connais pas du tout, hein, donc j'ai fait la recension dans Fac Réflexion. Cela est simplement une illustration pour dire ce que je fais avec la difficulté qui a été signalée en numéro 2 ce matin. En ce qui concerne 2 Rois 17-25, j'avoue ne pas avoir travaillé sur cette difficulté-là. L'harmonisation consisterait soit à dire que c'est une opinion citée par le texte biblique que l'auteur ne reprend pas à son compte, soit, et je penche plutôt de ce côté quant à moi, c'est une opinion que le texte biblique reprend à son compte, qui est dite, qui est énoncée d'une façon assez brutale, un peu crue, peut-être un peu naïve aussi, mais qu'on peut tout à fait reconnaître comme justifiée en théologie biblique globale. Tout événement dépendant de Dieu, l'idolâtrie de ces populations dans un territoire qui est le territoire de la Terre Sainte, de la Terre promise aux enfants d'Israël, cet événement des bêtes sauvages, des lions qui font des ravages, peut très bien être interprété comme un signe du déplaisir divin. C'est un des signes du désordre qu'a introduit l'idolâtrie. Et donc, la théologie qui exprime le verset peut être défendue. C'est de cette façon, vous voyez, que je tendrai à harmoniser. Je le dis sans avoir travaillé cette question. En fait, ce verset, je ne l'avais jamais remarqué, mais il est cité par Goldingay. Donc, j'ai eu à faire face plus récemment. En ce qui concerne les doublets prétendus de la Genèse, le travail d'harmonisation consisterait sans doute d'abord à dire pourquoi pas de répétition. Il en a pris l'habitude, ça a finalement assez bien marché pour lui. Pourquoi n'a-t-il pas recommencé? Pourquoi n'aurait-il pas recommencé? De quel droit décréter que ça n'a pu avoir lieu qu'une fois, alors que c'est raconté deux fois? Ce serait, je dirais, la première façon de répliquer à l'accusation, de dire il n'y a pas d'erreur, en fait, c'est bien réalisé deux fois. Comment pouvez-vous prouver le contraire? Voilà comment les tenants de l'inhérence peuvent répliquer. Mais plus probablement, il faudrait creuser un peu davantage et comprendre pourquoi Abraham a fait ce qu'il a fait, et l'a fait plusieurs fois. Et puis Isaac, après lui, l'a fait la même chose avec sa propre femme. Je n'ai pas vraiment une réponse. Peut-être que M. Nicole, spécialiste d'Ancien Testament, pourrait davantage éclairer que moi sur un tel point. Je suis persuadé que ce n'est pas une simple ruse qu'il a juste inventée comme ça. Que ça a des liens avec les coutumes du temps, avec des choses qui nous échappent, qui appartiennent au contexte de l'histoire de la Genèse, de l'époque patriarcale. Et donc, il y a autre chose par-dessous. Donc, je pense que la pleine harmonisation découvrirait pourquoi, effectivement, de façon qui nous étonne, Abraham a répété la chose. Et Isaac l'a fait d'après lui. Peut-être aussi faudrait-il chercher du côté des choix de composition du livre de la Genèse. Non pas pour dire, ça ne s'est pas produit plusieurs fois, c'est simplement un procédé littéraire, mais pour dire, l'auteur s'est plu à relever des exemples semblables. Là, il m'est arrivé peut-être une fois de prêcher un culte d'école là-dessus. Je me sens bien que je l'ai fait une fois. En tout cas, c'est un thème qui m'a fait méditer. Il me semble que dans la vie des patriarches, il y a comme une cellule mélodique. Comme dans un morceau de musique, un motif revient. Et que cela nous apprend la manière dont Dieu traite avec les humains. Je pense que ça a pu arriver à plus d'un parmi nous aussi, que Dieu agisse avec lui de cette manière particulière qui lui correspond, qui est un écho peut-être de ce nom secret que nul ne connaît sinon celui qui le reçoit, de ce nom de l'intimité avec Dieu. Je remarque qu'avec Abraham, plusieurs fois, il y a des épreuves de même type qui reviennent. Avec le changement de son nom qui est significatif, il le fait ressembler à Dieu. Dieu, le Père élevé, Abraham, qui devient père d'une multitude par son œuvre de grâce. Chez Isaac, il y a le thème du rire, qui correspond à son nom, qui rythme toute l'histoire. Bon, voilà, une suggestion simplement. Je pense qu'il peut y avoir des intentions porteuses de beaucoup de sens, passionnantes à découvrir, dans cette répétition même d'événements qui ne sont pas entièrement identiques, mais semblables, et mis en valeur selon leur parallélisme dans le récit des patriarches. Donc le travail d'harmonisation consiste à découvrir les raisons harmonieuses de ce qui, au premier abord, pour un regard critique, je dirais quand même relativement hostile, peut sembler une erreur, quelque chose que nous ne pourrions pas approuver avec notre conscience d'homme moderne, rationnel. Que les évangiles attribuent à des démons présentés comme des agents de type personnel ce qui devrait être diagnostiqué comme simple maladie psychomentale, alors là, ce n'est pas vraiment une harmonisation, c'est la contre-offensive. Comme je le disais à quelqu'un qui m'interrogeait juste après le cours ce matin, d'une part, la riposte de ceux qui affirment l'inhérence, c'est de dire « la Bible ne confond pas maladie mentale et possession démoniaque ». Il peut y avoir des maladies mentales qui sont provoqué par la possession démoniaque, mais la Bible fait la distinction. Il y a des versets où il y a d'une part maladie et d'autre part démonisation. Et puis d'autre part, alors là c'est la contre-offensive à plein, c'est la myopie, l'aveuglement de nos contemporains qui leur fait ignorer la réalité des puissances démoniaques et de leur action. Et il y a abondance d'expériences contemporaines en notre temps qui doit nous conduire à reconnaître que la présentation biblique à propos des démons est réaliste. Voilà, si vous voulez, la contre-offensive. Je signale d'ailleurs que j'ai connu, ça fait déjà pas mal de temps, mais un théologien allemand, un théologien qui était pasteur à l'époque en tout cas, mais il avait un doctorat en théologie, je crois, Otto Rodenberg, qui avait commencé l'évangélique par l'expérience pastorale. Parce qu'il a rencontré des cas de démonisation qui n'ont pu être traités que par le moyen de l'exorcisme. C'est le choc de cette réalité qui l'a conduit à discerner l'inconsistance et le mensonge profond de ces théories qui lui avaient été enseignées en faculté. Voilà, voilà si vous voulez, comment riposterait sur un tel sujet.
D'un passage où on a la présence en même temps de démonisation et de maladie mentale.
Là, je ne me rappelle pas comme ça. Donc, je pourrais peut-être, pour une prochaine séance, retrouver un verset, vous le citer, mais je crois que si je me mettais à chercher, je prendrais trop de temps maintenant, je n'ai pas juste un passage. Oui, monsieur, oui.
Tu ne peux pas m'empêcher d'avoir une question un peu provocatrice.
Oui, oui.
Parce que c'est interpellé par rapport à mon environnement quotidien. Oui, je ne dis oui. Pas franchement quotidien, mais ce que vous venez de dire bon, sur ces pathologies, ou ces états démoniaques, ne peut que me faire dire, donc toutes les personnes qui sont, c'est peut-être un peu extrémiste la façon dont je vais dire, toutes les personnes qui sont en CHS, donc dans les centres hospitaliers spécialisés, qu'on décrit aujourd'hui comme étant des cas de schizophrénie, de psychose, etc., seraient donc des cas démoniaques. Donc,
si ah non, ah non, c'est pas du tout ce que je dis, ah non, justement, je dis que dans l'écriture elle-même, il y a distinction entre la maladie mentale et nerveuse et l'action démoniaque. Et donc, j'affirme qu'il y a aujourd'hui aussi des cas d'action démoniaque, ou démonisation. Le mot possession n'est pas biblique, hein, je préfère l'éviter. Le terme, c'est démonisation, dans l'écriture même. Et donc, il y a des cas aujourd'hui de démonisation, mais bien sûr, il y a de nombreux cas aussi de maladies nerveuses ou mentales qui n'ont pas de rapport particulier avec les démons. Ouais. Et alors la situation limite, j'ai très brièvement utilisé de quelques mots il y a quelques instants pour suggérer son existence, mais je m'explique maintenant, c'est celle de maladies mentales qui correspondent aux nosographies et qui sont provoquées par de la démonisation, mais qui en sont cependant distinctes. C'est-à-dire que l'action d'un démon rend malade. Alors, il y a la maladie et il y a l'action du démon comme deux choses distinctes. Et il se peut que la maladie provoquée par l'action du démon soit guérie par chimiothérapie, etc., mais que le démon soit toujours là et actif et se manifeste d'autres manières. Hein. Je pense que ça doit pouvoir exister, mais là, je ne suis pas spécialiste. Moi, je n'ai pas d'expérience de terrain à ce propos. Il y a quelques ministères spécialisés dans notre monde évangélique et dans notre église, nous avons parfois recouru à des gens en dehors qui avaient ce ministère spécialisé. Donc, moi, je ne suis pas spécialisé. Mais là, je touche de grands problèmes en restant très, très, très dense, parce que je veux vous donner une illustration de la manière dont je me dispose, dont je procède. Je ne peux pas vous traiter de manière pleine et entière les différents cas qui sont évoqués. Nous allons reprendre la question des deux façons dont la fin de Judas est décrite dans Matthieu et dans le livre des Actes demain, donc je n'y reviens pas maintenant, mais vous voyez de quelle façon fondamentale ceux qui tiennent à l'inhérence tentent d'harmoniser. Étape suivante, je retrouve mes notes. Étape suivante dans notre progression. Le cas des apparences qui résistent à l'effort d'harmonisation. Je crois qu'il est indispensable d'en parler. Parce que c'est en fait, voyons, j'ai encore combien de temps ? Un quart d'heure, d'accord, ça va. Le cas des difficultés, parce que ces apparences d'erreur, on peut les appeler des difficultés, je crois que c'est le terme juste même pour les désigner, où les difficultés résistent aux efforts de solution. Où les tentatives pour montrer que les contrariétés s'accordent ne sont pas très convaincantes, ne sont pas en tout cas très, très attrayantes. Que faire dans ces cas-là? La cause évangélique, avec affirmation de l'inhérence biblique, s'est faite un tort considérable en forçant les choses, en essayant d'affirmer l'harmonie avec une explication boiteuse pour l'affirmer, pour dire nous avons trouvé une solution. C'est le cas pour les reniements de Pierre que j'ai évoqué dans dans le livre de Linzel, c'est sa tentative d'harmonisation qui aboutit à l'affirmation qu'il y a eu 6 reniements. Linzel, Harold Linzel, L-I-N-D-S-E-2-L. J'ai dit que c'est de manière assez maladroite qu'il défendait la doctrine orthodoxe de l'écriture. Bon, c'est quand même pas n'importe qui, Linzel. Il était professeur d'université, il était professeur de la faculté à Fuller, avant d'être de moins en moins d'accord avec ses collègues qui évoluaient dans un sens libéralisant, qui ont effacé l'inhérence de leur confession de foi. Elle y était au début, mais ils l'ont éliminée. Il a écrit ensuite, lui ayant quitté cette institution. Donc c'est pas n'importe qui, mais malgré tout, je pense qu'il a été très maladroit. Et que ce genre d'harmonisation forcée a jeté le discrédit sur l'affirmation même de l'inhérence. Et c'est pourquoi je souligne avec d'autant plus de force qu'il faut s'en garder comme de la peste. Si on ne trouve pas la manière d'accorder, il ne faut pas s'en faire. Il ne faut pas, de manière crispée, angoissée, dire « il faut que je trouve quelque chose ». Mais non, nous sommes de simples disciples, nous avons confiance dans notre Seigneur. Il nous a dit que ce texte est sa parole, mais nous savons bien les limitations de notre connaissance, de notre jugement. Donc si nous ne voyons pas que les choses s'accordent, mais nous n'en faisons pas un drame. Il est finalement tout à fait normal. Ce sont des textes dont nous ignorons tellement les contextes. Nous avons si peu d'instruments pour résoudre les difficultés, en particulier de type historique, qui peuvent se présenter, que c'est tout à fait normal que nous soyons en panne devant certaines apparences de contradiction. Notre confiance en notre Seigneur qui nous parle nous conduit simplement à dire « bon, j'attends, je laisse en suspens ». Voilà l'attitude qui, je crois, est saine et qui correspond à une foi sereine dans le Seigneur. C'est au fond comme un symptôme d'angoisse, de manque de foi, que de vouloir à toute force trouver une solution chaque fois. Mais il est très sain que nous ayons parfois à avouer que nous ne savons pas. J'illustre simplement pour montrer à quel point ce n'est pas irresponsable que de parler de cette façon. J'illustre en disant que les documents archéologiques jusqu'ici retrouvés et qui jouent fortement dans l'élaboration des hypothèses harmonisantes ou parfois des accusations d'erreur. Ces documents archéologiques sont extrêmement fragmentaires et lacunaires. On a calculé qu'il y a eu certainement plus d'un million, j'ai trouvé le chiffre, 1 112 000 ou quelque chose comme ça, bulletins de paye, de poterie, de légionnaires romains qui ont dû être tamponnés avec pendant le cours de l'histoire romaine. Or, l'archéologie, à ce jour, n'en a redécouvert que 6. C'est dire la proportion des restes, des vestiges que nous pouvons récupérer pour juger. Et le deuxième signe de l'importance de ces données et du fait que celles que nous avons en main sont très lacunaires, c'est que chaque fois qu'il y a une découverte majeure, ça bouleverse tout le paysage. Quand on a retrouvé les manuscrits de Qumran en 1947, mais ça a été la révolution et des choses que tous les critiques modernistes affirmaient ont été d'un seul coup complètement révisées, privées de leur crédibilité scientifique, en particulier concernant l'évangile de Jean. Il était tout à fait courant avant ces découvertes et aussi la découverte d'un fragment de papyrus en Égypte de l'évangile de Jean, de dire l'évangile de Jean c'est un ouvrage du IIe siècle. Albert Schweitzer, par exemple, qui était un critique très libéral, et Albert Schweitzer disait, mais c'est évident, il a été écrit vers 120-130, il reflète les idées de la philosophie grecque, d'une hellénisation poussée du christianisme, l'évangile de Jean, donc c'est un document très, très hellénisant, tardif. Et puis, on découvre les textes de Qumran, des textes juifs du 1er siècle d'avant, et on découvre des points de contact très nombreux. Du coup, l'opinion critique a été retournée. Chaque fois qu'une découverte de ce genre a lieu, cela bouleverse les jugements, les évaluations. Or, beaucoup de ces découvertes sont encore à faire. Nous n'avons que des fragments de toute façon. Donc nous n'avons pas à nous laisser intimider si, en l'état actuel de l'archéologie, il n'y a pas de confirmation particulière de tel ou tel événement dont parle la Bible, par exemple. Ça peut très bien arriver dans l'avenir qu'on découvre que, précisément, la Bible avait dit vrai, selon la formule d'un livre qui a été assez fameux. Oui, M. Doumain.
Est-ce qu'on a déchiffré le nombre de difficultés non résolues ou non résolues de personnes satisfaisantes?
Alors, je pense que ce serait très subjectif. À ma connaissance, ça n'a pas été chiffré. Moi, depuis longtemps, et je vous passe cette estimation, je considère qu'il n'y en a qu'une poignée. Et que par rapport à notre ignorance, les lacunes de notre documentation, etc., c'est tout à fait normal et c'est très peu. Franchement, c'est ce que j'estime, mais c'est mon estimation. Et je n'ai pas fait une statistique à proprement parler. C'est devant le nombre de choses pour lesquelles je n'ai pas vraiment de solution que je dis ça. Ou de solution, en tout cas, que je puisse présenter avec un sentiment un peu allègre. Mais Goldingay, je l'ai remarqué, lui dit, il y a finalement autant de difficultés que dans un texte humain ordinaire qui serait faillible, donc ces difficultés jouent contre l'idée d'un texte inerrant. Ça fait partie de ses arguments. Je l'ai rencontré donc là la semaine dernière ou la semaine d'avant en lisant Goldingay. Alors, je ne crois pas que ce soit le cas, mais je vous signale cette opinion.
Parce que les adversaires doivent quand même s'appuyer dessus, donc on doit pouvoir...
Le plus souvent, à mon avis, mais ça nous allons encore y revenir, ce qui est allégué comme erreur ou contradiction se résout facilement. Je dirais que par rapport à la liste que les critiques, en certains cas, présentent, y compris Goldingay, moi je ne suis gêné que par... 1 à 2% de ce qui est présenté. Le plus souvent, je dis, mais enfin, ça se résout très facilement, pas de problème. C'est comme ça que je réagis. Alors, demain, je vais vous présenter très intentionnellement des couples. Une difficulté qui, à mon avis, se résout très bien, et une difficulté qui se résout pas si bien, mais pour laquelle, je pense qu'il faut attendre sereinement dans la foi d'avoir plus de documentation, plus de lumière. Demain, je présenterai plusieurs exemples. Mais avec cette dualité. Mais donc, du point de vue statistique, mon impression, c'est qu'il n'y a qu'une poignée de choses qui seraient réellement gênantes. Je lisais encore, parce que j'ai été vérifié, pour me remettre les choses en mémoire, à la bibliothèque ici, sur Quirinus, dont nous allons parler, que plusieurs disent dans les commentaires, c'est la plus grosse difficulté dans le Nouveau Testament. Par rapport à l'histoire. Vous verrez ce que je pourrais en dire demain, après avoir fait ces lectures. Le dernier point, pour les quelques minutes qui restent, et qui a rapport avec l'interprétation, c'est mon point 4, donc... C'est 4. L'inhérence ne valant que du sens proposé par l'auteur, posé par l'auteur, Évidemment, lorsque l'on affirme l'inhérence, et qu'on se trouve devant certaines difficultés, la recherche des indications de sens devient d'autant plus urgente. Affirmer l'inhérence, c'est un aiguillon. Il s'agit d'être d'autant plus zélé pour vraiment discerner ce que l'auteur a voulu dire, quel est son sens. Il faut faire une attention toute particulière aux données de contexte, aux procédés rhétoriques, aux genres littéraires avec leurs conventions, aux tropes, c'est-à-dire aux figures de style, métaphores, symboles, éléments allégoriques, hyperboles, litotes, etc., etc. Et ça, c'est un travail d'interprétation. L'interprète à les mettre en lumière, et je pense que celui qui a pratiqué la chose conclut d'abord à l'élasticité assez étonnante, très remarquable, du langage de la Bible. Moïse Silva, Moïses Silva, qui est un théologien et linguiste, dans son livre sur « Biblical Words and Their Meaning », sur les paroles et mots de la Bible et leur sens, c'est un ouvrage à la fois théorique et pratique de linguistique biblique, souligne à la fin de cet ouvrage que le langage naturel se caractérise par l'élasticité. Et ça me paraît très très important. Seuls des langages machines, des langages tout à fait artificiels, non pas d'élasticité. Mais dans la communication courante, les mots ont toujours plusieurs sens. Certains mots ont une gamme énorme de sens, et celui qui parle choisit dans une gamme étonnante. Et s'il choisit, c'est toujours à peu près, forcément, dans le langage courant. Et c'est comme ça que ça se passe entre nous maintenant. On utilise des images, des figures de style, c'est plus ou moins littéral. Élasticité énorme. Et si l'on considère le langage de la Bible, je crois qu'on peut conclure qu'il est très élastique, peut-être plus encore que notre langage naturel d'occidentaux, que le langage de ces civilisations où l'oral tient une plus grande place que l'écrit, ou la rhétorique des débats sur la place du village ou à la porte de la ville joue un très grand rôle, où on aime ce qui est fleuri, l'hyperbole, que le langage biblique est extrêmement élastique. Et donc, qu'il faut en tenir compte. En fait, une très grande part de la résolution des difficultés qu'on élève contre l'affirmation de l'inhérence revient simplement pour moi à dire: mais le langage est élastique. C'est une façon de parler qui entre tout à fait dans le champ des usages normaux du langage, mais ce n'est pas très précis. Ça joue pour certains nombres, par exemple. Hein. Nombre rond. 400 ans à un endroit, 430 ans à un autre, pour l'Exode. Non, chiffre arrondi, pas de problème. Ça fait partie de l'élasticité du langage. Aucun langage n'est infiniment précis, et le langage de la Bible est souvent peu précis. Et donc il n'y a pas à se mettre martel en tête, dire erreur, parce qu'il n'y a pas de précision. Il faut bien noter que erreur et imprécision sont deux choses radicalement différentes. Si je dis Marseille se situe entre 100 et 10 000 kilomètres de Paris, c'est pas très précis. Mais c'est pas une erreur. C'est entièrement juste. Il n'y a pas d'erreur. Je vais prendre un exemple très gros, hein, presque aussi gros que la sardine qui a bloqué le port de Marseille, mais c'est pour faire prendre conscience de la différence. Le style biblique n'est pas précis. L'expression biblique en général joue de l'élasticité dans le langage, plein d'images, utilisant souvent les hyperboles et tout. Un langage naturel, très vivant et naturel, souvent proche du parler. Et si on croit avoir des erreurs, c'est parce qu'on n'a pas tenu compte de cela. C'est parce qu'on veut lui trouver une précision qu'il n'a pas, et alors à ce moment-là, on bute sur de difficultés imaginaires. C'est pas le tout des difficultés qui se résout de cette façon, mais c'est une partie importante. Monsieur.
Est-ce que la théologie générale n'utilise pas justement cette élasticité ?
Non, Non, c'est très curieux. C'est très curieux. La théologie libérale, souvent, est d'un littéralisme, je dirais, bétonné, sans souplesse et tout, pour dénoncer de l'erreur attribuée au texte. Souvent aussi à propos des contradictions. Moi, je trouve qu'il y a là une incohérence de la théologie libérale critique. Très couramment, je vous signale ça, puis ça pourrait être un peu notre conclusion. On nous dit que les livres bibliques ont été constitués par des documents qui sont contradictoires entre eux. Mais la contradiction ne gênait pas les rédacteurs du Pentateuque. Ils ont mis le document yaviste, le document éloïste, malgré leurs divergences ensemble, parce que c'était des traditions qu'ils avaient reçues de leur père, donc ils les ont mis côte à côte, et les doublets contradictoires, ils les ont mis comme ça ensemble, parce que ça ne les gênait pas. La suggestion, c'est que, en ce temps-là, ils n'avaient pas les mêmes exigences de cohérence logique que nous, ils pouvaient très bien s'accommoder de traditions incompatibles, toutes sacrées, mises ensemble. Mais d'autre part, la même méthodologie critique utilise un critère de cohérence pour dire ça ne peut pas faire partie du document initial. Ça, c'est interpolé d'Angie, le document yaviste. Parce que c'est contradictoire de cette moitié de verset. Alors, il coupe la moitié d'un verset, là, il y a une contradiction, donc ça ne vient pas de J, ça vient d'un rédacteur ultérieur, ou c'est d'un mélange, c'est un fragment de E qui a été glissé là-dedans, de l'éloïste. Alors, je dis, mais... D'un côté, ils attribuent à ces rédacteurs une complaisance pour le contradictoire, dont ils disent, ça ne les gênait pas, mettant toutes ces traditions ensemble. Et d'autre part, il leur attribue une exigence logique implacable lorsqu'il s'agit de chaque document. Ça ne peut pas être de J parce que ça contredit l'autre élément. Alors qu'un évangélique va dire, mais en fait, mais on peut très bien considérer que J a dit, non, disons que ce chapitre qui est attribué par les critiques à J, a dit l'une et l'autre chose, elles ne sont pas contradictoires. Mais non, un peu de souplesse, et on voit que ce n'est pas contradictoire du tout. Et ce n'est pas contradictoire non plus avec les autres chapitres qui sont attribués à et. Dans un cas, l'évangélique sera plus souple à l'intérieur du chapitre attribué à J. Dans l'autre, il affirmera que ces traditions doivent être comprises ensemble de façon cohérente et non pas comme contradictoire. Vous voyez, c'est une des faiblesses, à mes yeux, dans la méthodologie critique courante. Alors j'ajoute, et là c'est vraiment ma conclusion, donc Madame Calvo est là, je ne pourrais pas la faire attendre, j'ajoute, c'est vraiment ce que j'ajoute en dernier lieu, que je cite là en illustration la théorie documentaire des sources du Pentateuque, parce que évidemment c'est celle qui régnait quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, c'est le plein chaos. Et certaines des faiblesses que je dénonce ont été dénoncées par les critiques eux-mêmes. Mais aujourd'hui, j'ai entendu Madame Florence Hinsmith, par exemple, professeure à la faculté de Paris, elle vient de prendre sa retraite maintenant, mais dire qu'on n'avait plus aucune certitude. C'était vraiment une situation de flux complet dans les études du Pentateuque. Une seule chose, c'est pas elle qui le disait comme ça, c'est moi qui le percevais. Il y a une seule chose certaine, un seul point de repère qui demeure inaltérable et ferme, c'est qu'il faut surtout pas revenir à la thèse orthodoxe qui attribue le Pentateuque à un seul auteur, etc. Ça, c'est la seule chose dont on est sûr. Mais tout le reste...
Il y a une autre chose aussi, c'est que dans le même temps, une nouvelle théorie a été échafaudée, des nouvelles recherches.
Oui, ça c'est très plausible en effet, parce que c'est vrai que les périodes de chaos sont suivies par des constructions de théorie, puis dans 50 ans, cette nouvelle théorie sera aussi remise en cause. Bon, voilà, donc...